Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Gilles.
Bonjour
vous
Valérie.
Allez bien ?
Oui, ça me fait plaisir de vous voir.
Mercredi 6 mai, on est ensemble pour le 10h midi. On sera avec Hélène Darroz qui est confinée chez elle. Elle va nous raconter le quotidien d'une chef qui ne peut pas ouvrir son restaurant. On va évidemment parler avec elle de Top Chef puisque c'est un numéro qui lui est consacré. L'épreuve des proches au restaurant d'Hélène Darroz. À 10h30, on va vous parler d'une opération de solidarité, une tombola, pas très chère, 10 €. Vous pouvez gagner un maillot de Zinedine Zidane, une journée de tournage avec Guillaume Canet, bref, plein de choses. On va parler des vélos électriques. Vous pensez vous y mettre, Gilles, au vélo électrique?
Ça dépend quel poids ça supporte. Faudra demander à votre intervenant.
On va demander aux spécialistes.
Si tout le monde a accès à ces vélos, est-ce que tous les poids sont possibles? Est-ce que le moteur va quand même fonctionner? Sinon, oui, moi, je suis prêt à venir à Sud Radio quand on sera de nouveau en studio en vélo moteur.
En vélo. Et puis, état des lieux de la vie sexuelle, de la vie affective des Français pendant cette période de confinement. C'est l'IFOP qui a fait un sondage plutôt intéressant. On va en parler avec François Cros. Ce sera à 11h moins le quart. On va commencer avec les audiences d'hier soir. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier? Eh bien, écoutez, évidemment, il y avait du monde encore une fois devant la télévision, près de 13 millions de téléspectateurs qui ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron sur les trois chaînes généralistes. C'est beaucoup de monde, encore une fois. Il était dans une école à Poissy. En tête, hier soir, c'était Harry Potter. Harry Potter qui fonctionne toujours très bien. Je crois qu'on a une auditrice qui a... On a Sandrine, c'est ça, en ligne? Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez regardé comme les autres.
Voilà, ouais, tout à fait. Bon, c'était bien Harry Potter sûrement, mais ouais, j'ai regardé comme les autres. C'était très chouette. C'est touchant. Voilà, c'est touchant.
L'émission présentée par Frédéric Lopez avec des personnes handicapées. 1 977 000 téléspectateurs, 7,2 d'audience. C'est sûr que ça pouvait pas cartonner, mais en même temps, c'est plutôt bien que le service public fasse des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette émission, Sandrine?
Le vrai, voilà. Déjà, c'était du vrai. Après, c'est vrai que dans mon travail, j'étais assistante de vie. J'ai travaillé avec ces personnes-là. Donc, c'est vrai que je peux comprendre ce qui... Mais par contre, il manquait, vous savez, le quotidien. Le quotidien, les toilettes, voilà. Les transferts, tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai vécues, bien sûr. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en tant qu'assistante de vie, on s'occupe que de ça et pas du reste. Tout ce qui est loisir et tout, c'est vrai que je le voyais pas tant que ça. Donc là, ça m'a fait super plaisir. C'était touchant.
Ça vous a fait plaisir de voir, de voir que des gens pouvaient découvrir effectivement d'autres univers que le leur. 1 million, donc 900. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir appelé. 1 977 000 téléspectateurs. Je vous ai Harry Potter, évidemment, a tout dévasté. C'était un tsunami. 6 933 000 téléspectateurs pour Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est quand même 500 000 de moins que la semaine dernière, mais c'est le même score que le premier Harry Potter il y a 2 semaines. À chaque fois, Rémi Pernelet me donne des chiffres extrêmement précis. Tandem, le même score que la semaine dernière, 5 300 000 téléspectateurs. Et M6 avec Cauchemar en cuisine, c'était une rediffusion, 2 404 000 téléspectateurs. Oui, plutôt un bon score. Quotidien a très bien marché également, 1 913 000 téléspectateurs. Et ce soir chez Baba, ça ne marche pas et ça baisse, 545 000 téléspectateurs pour Cyril Hanouna. Je ne sais pas, il doit espérer très fortement que ces émissions reprennent.
Oui, ça va s'arrêter, Valérie. C'est-à-dire que dès le 18, en fait, ça va être remplacé par une émission d'humeur d'humeur différente en plateau, suivie par les boîtes, vous savez, les fameuses boîtes que présentait Arthur, à prendre ou à laisser. Ouais. Et à la rentrée, TPMP reprendra qu'en septembre, c'est ce qu'il a annoncé.
À nous signaler Canteloup, un record sur TF1, 7 880 000 téléspectateurs. C'est un record depuis mars 2017. L'humour, visiblement, nous fait défaut et fonctionne plutôt bien. Allez, on va passer au zapping avec vous.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, hier, c'était la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Un député a interpellé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, mal lui en a pris.
Monsieur le député Sébastien Jumel, sur tous les sujets que nous abordons en matière de déconfinement, il faut toujours aussi raisonner à contrario. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez fait le contraire de ce que nous avons décidé? Est-ce que vous auriez laissé les enfants à la maison, confinés, y compris les plus défavorisés, dans des appartements étroits, jusqu'au mois de septembre, avec quelles conséquences sociales? Une fois que vous auriez décidé ça, qu'auriez-vous fait au mois de septembre? Est-ce que vous auriez décidé d'obliger les parents à envoyer leurs enfants? Vous auriez envoyé la police chercher les enfants dans leur famille pour les obliger à venir à l'école? Quelle est l'autre proposition que vous faites par rapport à la critique que vous faites?
Il était remonté.
Il n'était pas content hier, oui, oui. Il n'a pas tort, hein, c'est facile de donner des conseils quand on est extérieur au problème.
Oui, enfin, c'est aussi le rôle de l'opposition, enfin voilà, chacun est dans son rôle. Hier, le président Emmanuel Macron était, vous savez, donc dans une maternelle à Poissy. Et hier, Quotidien, une journaliste de Quotidien a expliqué que ce n'était pas le fait du hasard.
Carl Olive, c'est pas un maire lambda choisi au hasard. Ex-juppéiste, Olive est très proche d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Ils étaient ensemble chez les Républicains et ils ont d'ailleurs quitté tous les deux le parti. Et même en étant encore chez les Républicains, Carl Olive signait des tribunes pour soutenir Emmanuel Macron. Et puis il y a cette dame ici, c'est Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, la plus grosse de France, haut fonctionnaire aujourd'hui. Elle est surtout une ancienne camarade de classe d'Emmanuel Macron. Ils étaient dans la même promotion à l'ENA, la promotion Senghor. D'ailleurs, sa nomination à la tête de l'Académie avait fait des vagues en 2018.
Hier, dans C'est à vous, Valérie, l'épidémiologiste France Mantre, qui est une des responsables de l'essai Discovery, a expliqué qu'au départ, il n'a jamais été question d'inclure l'hydroxychloroquine et que cela a même perturbé l'essai de Discovery.
Au début, notre étude devait avoir que 4 bras, donc ne pas évaluer l'hydroxychloroquine. Et en fait, à cause du buzz autour de l'hydroxychloroquine, on m'a demandé un soir, de manière très précise, de rajouter le bras hydroxychloroquine, sans même avoir le choix, et de faire ça au gouvernement, on va dire.
Donc sans l'intervention du gouvernement, vous n'auriez pas inclus l'hydroxychloroquine dans votre étude?
Oui. Oui. Et l'autre chose, c'est que certains patients refusaient de rentrer dans notre étude parce qu'ils voulaient tous de l'hydroxychloroquine.
Valérie, je sais pas
Il y a beaucoup de médecins qui ont dit que ça avait retardé et que ça avait causé un certain nombre de retards, justement, tout ce débat autour de la chloroquine. Allez-y.
Pardon. Gros scandale hier sur les réseaux sociaux qui ont été choqués par la déclaration de Frédéric Becbédé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a en fait comparé les attentats de 2015 avec ce qu'on vivait avec le coronavirus et qu'à l'époque, ça ne nous avait pas empêché de sortir et d'aller dans les bars. Évidemment, ça a été un tollé. Hier, Valérie Benahim, dans Touche pas à mon poste, s'est mise en colère contre ses propos stupides.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je trouve que ce qu'il a dit est absolument irresponsable. Et oui, plions-nous. Oui, il s'agit de lois liberticides, mais c'est pour le bien de tous. Et pour une fois, le collectif doit passer avant l'individu. Moi, ouais. Je joue collectif en ce moment. L'individu que je suis a envie de sortir. L'individu que je suis en a ras-le-bol aussi, comme tout le monde. Mais je joue collectif et c'est le collectif avant ma tronche.
On sait aussi, Valérie, que dans cette période, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques et elles ne cessent d'augmenter. Hier, Raymond, toujours chez Cyril Hanouna, a raconté l'une d'elles. Vous allez voir. Écoutez bien, Valérie, c'est effrayant et pathétique.
J'ai appris dernièrement, ça fait du porte-à-porte en essayant de vendre des masques. Et ça dit aux gens, essayez le masque. Et en fait, sur le masque, il y a comme de l'éther, comme un truc qui va te rendre un peu abruti. Et ils rentrent chez toi et ils te volent. Donc voilà, mon coup de gueule, c'est ça. C'est faites attention au porte-à-porte. Faites attention sur Internet, on est dans un monde dégueulasse. Voilà, je m'arrête là-dessus. Les gens sont à pourrir et à vomir de profiter, de faire des escroqueries en profitant du Covid.
Incroyable quand même.
Beaucoup d'arnaques.
Un Englishman confiné chez lui, mais qui n'arrête pas de chanter. Voici le message in the bottle de Sting.
Hi everybody, this is Sting. I'm in my home in England.
Rescue me before I fall into despair. SOS to the world, I'll sell an SOS to the world. I hope that someone gets my.
Bon, on verra ce que fait Emmanuel Macron pour la culture, mais en tout cas, on a le droit à des concerts gratuits durant toute cette période. Et hier, c'était au tour de Sting. Pour finir, Valérie, notre chouchou à nous deux, c'est le retour de Sandrine Saroche. Alors, vous connaissez sans doute la chanson « Cela vaut mieux que d'attraper la scarlatine ». C'est devenu, dans la bouche de Sandrine Saroche, c'est devenu « Tout ça vaut mieux que d'avaler de la chloroquine ».
Moi j'avais plutôt tendance à faire confiance à Véran. Quand j'ai vu Edouard la science, j'ai flippé immédiatement. Oh, y'a bon peuple de France, on n'est pas des bons à rien. Vous n'irez pas aux urgences si vous déconfinez bien. Ça vaut mieux que d'avaler de la chloroquine. Ça vaut mieux que de boire de la javel à la croix. Ça vaut mieux que les patchs à la nicotine. Ça vaut mieux que d'être en couple avec Chapin.
Voilà, qu'on retrouve dans l'émission Zemmour Nolo sur Paris Première toutes les semaines. Et elle a beaucoup de talent, Sandrine Saroche. Merci Gilles de ce zapping. On est en ligne avec Hélène Darroze. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Ça va. Vous avez, je crois, vous, été un peu malade. Vous avez eu le coronavirus ?
Oui, un peu beaucoup, oui. Mais ça va.
Un peu beaucoup. Ouais, et là, ça va mieux.
Ouais, ça commence à aller mieux tout doucement.
C'est long, hein. C'est ce que les gens qui ont été touchés disent. Que c'est très très long et qu'on est très longtemps fatigué. Après, vous êtes confiné, comme de très nombreux restaurateurs. Vous publiez des recettes, hein, sur votre Instagram, oui. qui nous font saliver. Parfois, on est gourmand comme vous. On va vous retrouver ce soir dans Top Chef, 12e semaine, et l'épreuve se passe dans votre restaurant Marsan, donc qui est fermé depuis maintenant près de 6 semaines. Déjà, avant de parler de l'émission, comment ça se passe pour vous ? Comment vous avez géré ça quand l'annonce de la fermeture est intervenue ?
On a géré dans l'urgence, puisque j'avais un des deux restaurants qui était ouvert et puis il a fallu le fermer dans les 4 ou 5 heures qui ont suivi. Donc il a fallu presque mettre les clients dehors d'ailleurs, puisqu'à minuit il ne devait plus y avoir personne. Donc ça s'est passé comme ça, mais c'était aussi un peu un soulagement parce que depuis quelques jours on sentait la tension monter, autant j'avais cette semaine-là avant l'annonce, les restaurants étaient vraiment pleins parce que je pense que nos convives sentaient le vent tourner et ont voulu profiter jusqu'à la dernière minute des sorties qui étaient encore autorisées, mais la semaine qui suivait, il n'y avait plus aucune réservation, donc c'était on a pris une décision à notre place. C'est vrai que pour notre économie en tout cas, c'était presque un soulagement qu'on nous dise fermez et on vous aide, quoi.
Ouais. Et là, la reprise, Christian Etchebest l'a beaucoup dit, il l'a dit sur notre antenne également, ça risque d'être très très dur pour les restaurateurs, la reprise. Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs de la date ?
On n'a toujours pas d'idée de la date. Je pense que cette reprise, je l'ai dit, elle ne peut se concevoir que si elle est vraiment accompagnée d'un message fort et positif de la part à la fois du gouvernement, du corps médical et des médias, parce que sinon, si on réouvre pour que les restaurants soient vides, ça va être une catastrophe.
Il faut que ce soit fort de bon.
Mais vous imaginez des plexiglas dans votre restaurant ou pour vous c'est impossible ?
Des serveurs masqués et
des serveurs masqués et des plexis entre chaque personne.
On est un métier d'hospitalité, hein, donc je ne sais pas si ce sont vraiment les règles de l'hospitalité, tout ça. Maintenant, on est aussi conscient qu'il va falloir s'adapter et on espère qu'il y a eu beaucoup de solidarité dans cette période de confinement et de crise sanitaire. J'espère qu'il y aura aussi de la solidarité maintenant envers les restaurateurs économistes, mais voilà, et en particulier envers les restaurateurs, parce que sinon ça va être une catastrophe. Hein.
Alors ce soir, Valérie,
parce que les restaurateurs ont été là et très solidaires, en plus des soignants, beaucoup sont mobilisés,
absolument. Ouais, parce qu'il y a tous les gens défavorisés, il y a plein de mouvements qui se sont créés. Oui, on a été là. On a été là, donc j'espère que ce sera... Voilà.
Ce alors, sera le cas aussi, Gilles. Ce soir, Valérie, je ne sais pas si vous connaissez le pitivier. Tous nos chefs encore en sélection vont devoir faire un pitivier qui est un peu le plat, un des plats signatures d'Hélène Darroze. C'est quoi un bon pitivier, Hélène Darroze? Qu'est-ce que vous allez leur demander à nos candidats ce soir?
Alors, ce soir, on va leur demander un pitivier avec où il faut qu'il y ait quatre couches bien distinctes. À l'intérieur du pitivier quand on le coupe. Donc on leur demande d'être assez technique, hein. C'est une épreuve qui est assez technique, mais c'est une épreuve, comme je dis, qui est un peu à l'image de mon restaurant qui s'inscrit entre tradition et modernité. Le pitivier, c'est vraiment un classique de la cuisine française. Et
dites-nous peut-être pour ceux qui ignorent ce que c'est, parce qu'il y a le pitivier sucré qui est la galette avec la frangipane. Ouais. Là, on parle pas de ça. Là, on parle d'un pitivier avec avec du gibier.
Avec de la protéine en tout cas et avec des légumes. C'est-à-dire c'est une préparation. Comme un pâté en croûte dans une pâte, alors qui peut être feuilletée ou autre, peu importe, hein. Moi je fais ça dans une pâte à pâté, et puis à l'intérieur, voilà, on met à la fois des morceaux de viande entier, à la fois une farce, du fruit, ça dépend, et voilà quoi.
D'accord. Et donc
ce soir, ils vont faire une épreuve chez vous. Vous allez juger avec votre personnel. Et puis moi, il y a mes chouchous qui sont dans votre équipe. Moi, je suis assez fan de Mallory. Vous pensez qu'il va pouvoir aller loin, Mallory, qui est le Belge de la
compétition. Il est quand même déjà très loin, puisque ce soir, il ne reste que 5 candidats. Donc,
c'est vrai.
Il est tout jeune. C'est le plus jeune de la compétition, hein, avec Diego d'ailleurs. Ils sont tous les deux là encore. Et donc, il est déjà très, très loin, quoi. Hein, et j'espère qu'il va continuer à aller très, très loin, j'espère.
Vous les suivez, les anciens de vos équipes, ou après, une fois que la saison est finie ou pas?
Oui, bien sûr, certains, oui. Après, il y a plus d'affinité avec certains que d'autres, hein, donc voilà. Mais là, c'est évident que David et Mallory, les deux candidats rouges qui sont encore en lice, qui sont encore là ce soir et donc toujours dans le concours, c'est sûr qu'on se parle très régulièrement, on s'envoie des petits messages, et j'ai eu une affinité toute particulière avec ces deux garçons cette année.
Et puis il y a eu une séquence très drôle, Valérie, on en avait parlé avec lui, c'est l'épreuve de Philippe Etchebès, vous savez, il a fait des plats sans que le jury le sache, et en aveugle ils ont mangé. Alors vous avez détesté la cuisine de Philippe Etchebès, non?
J'ai ça, pas aimé ton plat. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu la vie, hein. C'est comme ça. J'avais pas été très sensible à sa cuisine, et c'est vrai que je l'avais pas bien classé, mais il ne m'en a pas voulu, donc ça va.
vous avez toujours autant de plaisir à retrouver à chaque fois cette émission qui est assez exigeante, hein, il faut le dire, sur le plan du tournage. Ce sont des très longues journées, mais c'est vrai
que c'est beaucoup beaucoup de travail. Sur une période de presque deux mois, de longues journées en effet, mais c'est vrai que oui moi j'ai beaucoup de plaisir parce que d'abord ça me permet, enfin voilà, c'est un moyen de transmettre la passion que j'ai pour mon métier, et puis peut-être un peu mes compétences, c'est un moyen différent de transmettre, et je trouve ça intéressant. Et au-delà de ça, il y a une super équipe de production, et on s'entend tous très bien depuis moi 6 ans maintenant. Et puis je rigole bien avec mes complices aussi du jury, et puis en général on rencontre toujours des candidats, il y a toujours une très bonne ambiance aussi entre les candidats. C'est certainement dû aussi à la prod et à l'encadrement qui est donné, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec ces jeunes, parce que voilà, il y a toujours une super bonne ambiance de camaraderie, d'entraide, c'est vraiment une super ambiance en général, et c'est vrai que chaque année j'y prends beaucoup de plaisir, sinon je reviendrai pas.
Dites-moi, Hélène, ce matin, on a appris que les Français avaient pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement.
Ah bon.
Et vous, est-ce que vous avez une idée ou pas vous cuisinez beaucoup?
Ben, moi, je cuisine beaucoup, oui, parce que c'est un peu un exutoire, hein. C'est vrai ça fait du bien, et puis c'est un moyen aussi de communiquer pour moi et de rester un peu en lien avec mes clients, mes convives et tout le monde. Écoutez, je pense qu'en même temps, le fait que le rythme de travail se soit comme ça un peu arrêté et qu'on reprenne des habitudes où on mange à des heures régulières, on est peut-être un peu moins stressé par un quotidien où il faut toujours courir. Tout ça fait que peut-être, même si on mange un peu différemment, enfin un peu plus que d'habitude, pour moi, ça s'est plutôt bien passé parce que voilà, je pense que juste le fait d'avoir un rythme de vie plus régulier que ce que je n'ai d'habitude, ça m'a peut-être permis de, je sais pas, de retrouver des habitudes qui sont plus saines. Voilà.
Ça vous amuserait de remplacer Cyril Lignac une fois en direct pour cuisiner un plat en direct? Est-ce que ça vous amuserait de le faire?
Oh bah pourquoi pas, mais après je sais pas si moi j'ai le talent de Cyril pour ça, hein, parce que Cyril il est vraiment
c'est un battleur, hein, c'est un showman.
Oui. Voilà, c'est ça, il le fait super bien, quoi. Donc voilà, je sais pas si je serai la hauteur.
Une petite recette rapide, parce que les gens disent on n'a pas les moyens d'aller dans un étoilé. Je rappelle que vous avez un autre restaurant qui s'appelle Joya, qui est plus accessible, que vous faites une cuisine qui est simple, qui est alors évidemment vous avez un restaurant étoilé et c'est effectivement pas donné à tout le monde de pouvoir y aller, mais les recettes que vous proposez sont très souvent très accessibles et faciles. Vous avez un conseil rapide, un truc hyper facile avec un conseil de chef? Alors, je sais que vous mettez de la graisse de canard partout, ça donne...
Non, pas partout, mais c'est vrai que moi, c'est ma culture. Hein. Je cuis avec de la graisse de canard plutôt qu'avec du beurre ou de l'huile d'olive, et c'est plus sain, donc c'est super. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est la saison des asperges, donc voilà, un petit velouté d'asperges, on réserve les pointes pour en faire une petite garniture qu'on blanchit comme ça. Et puis les queues, on en fait un velouté tout simple. On les cuit dans de l'eau salée. Si on a un petit bouillon de volaille, c'est encore mieux, ou quelque chose qui fait office de ça. Et puis voilà, et puis on mixe et on crème. Et voilà, on sert le velouté comme ça avec les pointes d'asperges, quelques petits lardons ou quelques petits croutons, et puis une herbe comme de l'estragon. Et c'est tout simple et c'est très bon.
Et c'est très bon, et c'est des asperges vertes, hein?
Asperge blanche pour le velouté.
Non, ah bon, vous faites un velouté avec une asperge? Oh, pardon.
Ah oui. C'est comme le canard, c'est comme la graisse de canard, c'est culturel, l'asperge blanche.
C'est culturel.
Mais vous avez dit que la graisse de canard, c'est plus sain que l'huile d'olive?
Écoutez, en tous les cas, c'est je crois que des études montrent qu'en effet... la graisse de canard, je sais pas, au niveau du cœur, crois qu'il y a une étude comme ça.
Mmh. Ouais. En tout cas, vous en avez mis pas mal sur votre poulet de dimanche. Hein. Je vous suis sur Instagram. Il avait l'air très bon.
Dimanche, pour votre information, il sera disponible en takeaway à Joya à partir de la semaine prochaine. Voilà.
C'est comme ça que les restaurateurs effectivement reprennent doucement en proposant des plats à emporter ou en livraison. On va retrouver dans un instant Hélène Natacha Benabou, que vous connaissez peut-être, qui a organisé la tombola Star Solidaire à laquelle vous participez. C'est cela, vous avez offert. Dites-nous ce que vous avez offert.
Moi, j'ai offert un repas de 4 personnes dans mes cuisines sur la table du chef, avec l'aide de Krug, qui est autour d'une verticale de champagne Krug. Et à la fin, je remettrai mon premier livre, Personne ne me volera ce que j'ai dansé, qui n'existe plus, qui a été édité longtemps, et il en reste plus d'exemplaires. Il en reste que 3 que j'ai moi, et j'en remettrai un. Voilà.
Et on va parler de tout ça avec Natacha Benabou. Et ça, pour 10 euros, vous pouvez éventuellement remporter gagner un repas dans les cuisines d'Hélène Darroze autour du champagne Krug. Merci beaucoup Hélène Darroze d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour parler de cette tombola. Prenez soin de vous Hélène.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Vous pouvez nous retrouver, je vous le rappelle, sur le site sudradio.fr et nous voir en vidéo. On est là pour le 10h midi avec vous et je suis au téléphone avec Natacha Benabou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'organisatrice d'une tombola qui s'intitule Star Solidaire. Il suffit de taper Star Solidaire sur Internet et c'est au profit du collectif Protège ton soignant. Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est que cette tombola.
Bah, en fait, Star Solidaire, c'est une grande tombola en ligne qui regroupe maintenant plus de 190 stars. Et en fait, elles mettent un objet en jeu qui ont marqué leur vie ou une expérience à vivre avec eux. Et en fait, chacun achète des tickets pour le lot qu'il veut gagner, le ou les lots qu'il veut gagner, pour 10 euros le ticket. Et tout ça est reversé au profit des soignants.
Et donc, vous avez des lots absolument exceptionnels. Il y a le maillot du Real Madrid de Zidane, les lunettes de soleil de Maître Gims, il y a énormément de disques d'or, celui de Jane Birkin, d'Ayam, le polo de finale de Roland Garros de Stan Wawrinka, une journée de tournage avec Guillaume Canet. Bref, il y en a 100, donc on ne va pas tous les dire, mais c'est vrai que pour 10 euros, bah, c'est comme le loto. Tous ceux qui ont tenté leur chance ont une possibilité de gagner. Comment ça s'est mis en place, parce que c'est quand même assez, assez exceptionnel d'avoir toutes ces personnalités, et c'est assez rare que toutes ces personnalités s'engagent comme cela.
Et ben en fait, pour être très honnête, c'était un cercle vertueux assez inattendu. Ça a pris une ampleur folle qui était inespérée. Au début, on était avec mes deux meilleures amies, Milena Benchetrit et Marguerite Courtois. On était dans ma cuisine et puis on rigolait, on commençait à appeler des gens en disant « Est-ce que vous connaissez des gens plus ou moins connus qui voudraient participer à ça ?» Et puis comme ça, on en a eu une, puis deux, puis 10, puis 50. Et en fait, ça s'auto-alimente et on a aussi fait des très belles rencontres sur le chemin, notamment à Se Connect et Protège ton soignant, qui nous ont beaucoup aidés aussi à avoir des célébrités qui voulaient participer à l'aventure. Et c'est vraiment un énorme cercle vicieux de gens qui voulaient
vertueux,
donner
pas vicieux.
De leur personne. Oui, pardon,
vertueux.
Vertueux, oui, tout à fait, voilà. Les célébrités, elles nous ont un peu choquées tellement elles étaient investies et tellement elles ont trouvé des idées de cadeaux assez extraordinaires. Beck Bébé, il vous dédie son prochain livre. Martin Solveig, il vous invite en studio pour créer un son avec lui. Enfin, on est hallucinés. Mmh. On est hallucinés, on en revient toujours pas.
Parce que vous les connaissez pas tous, hein. Vous êtes pas une...
Vous-même
pas. Dans ce milieu-là, c'est ça qui est assez génial dans toute cette histoire.
Ah oui, on est trois jeunes filles de 25 ans qui avons eu cette idée un peu folle de tombola et qui se sont dit bon allez on y va à fond et puis en fait de fil en aiguille les gens ont trouvé l'idée sympathique et du coup tout le monde nous a aidés de manière assez grandiose. C'est hallucinant quand on y repense.
Alors donc, on, par exemple, si je veux acheter les chaussures de Cathy Guetta, les loup-boutins fétiches de Cathy Guetta, je vais sur le site et je mise en gros 10 euros pour être éventuellement tiré au sort sur ce lot-là en particulier. C'est ça, on choisit le lot. Alors qui est-ce que vous pouvez nous révéler un peu en exclusivité qui a le plus de demandes ou qui a le plus de mises?
Bah, ça, on n'a pas trop le droit de le dire parce qu'en fait, c'est par entre guillemets courtoisie pour tous nos parents. On veut pas vraiment qu'il y ait de classement. D'accord. Vu que c'est un don à l'origine.
Ouais.
En fait, ils sont pas en compétition. C'est juste le but, c'est de lever le plus d'argent possible. Et puis, du coup, en fait, on a forcément des stars qui sont très 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 connues de tous, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connues, mais très connues dans un domaine particulier. Vous voyez, par exemple, Dorothée Gilbert. Elle est danseuse étoile. Bah, tous ceux qui sont passionnés de danse, ils vont adorer Dorothée, mais forcément, elle aura moins de tickets que Guillaume Canet, par exemple. Mais, mais en fait, le but, c'est vraiment que n'importe qui arrive sur le site trouve son bonheur, qu'il aime le kitesurf ou le cinéma ou n'importe quoi. On veut vraiment que n'importe qui puisse trouver son bonheur. Il y a au moins un lot qui va lui plaire.
Oui, oui, c'est sûr. Marion Cotillard qui offre un dossier de chaise à son nom. Il y a Clovis Cornillac. Il y a même un disque d'or de Mike Brand, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Oui, en fait, c'est vraiment pour toute passion et génération confondue. On a Eddie Mitchell qui était quand même notre premier parrain à nous avoir offert une chemise des Vieilles Canailles. Après, on va avoir Booba Orelsan. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Mais bon, enfin. C'est très éclatant.
Laetitia Hallyday qui a offert un chapeau fétiche de Johnny et un blouson, son perfecto en cuir. Donc il y a vraiment, encore une fois, pour 10 euros, non seulement vous pouvez récupérer, gagner un lot exceptionnel, mais en plus, vous faites une bonne action parce qu'il faut dire que Protège ton soignant, c'est de l'argent pour les soignants, pour les hôpitaux. Vous, ça vous paraît pas un peu paradoxal que ce soit des cagnottes qui aujourd'hui souhaitent obligé de financer des respirateurs, des blouses, des choses comme ça?
Écoutez, moi je pense que l'État, enfin, il pouvait pas entre guillemets prévoir l'ampleur de cette crise, et du coup, bah forcément, il est un peu dépassé. Et nous, voilà, si on peut aider les soignants, on va le faire. Et puis, s'il y a des initiatives privées qui sont aussi efficaces que Protège ton soignant, bah nous, c'était à eux qu'on voulait reverser de manière évidente. En fait, on voit exactement à quoi sont employés les fonds, combien de respirateurs acheter. Enfin, ils sont très très efficaces. Donc nous, on a eu un coup de cœur pour cet asso et on s'est dit bon bah, on va les aider. Et cette idée, bon bah voilà, elle était saugrenue mais plutôt efficace puisque à date, bah on a levé 1 million d'euros hier.
Ah oui, déjà à date d'hier, il y a eu 1 million d'euros de petits 10 euros cumulés.
Voilà, exactement. Bah c'est assez dingue, on n'arrive toujours pas à réaliser.
Non, c'est fou. On rappelle donc que vous avez 25 ans, qu'avec deux copines vous avez eu cette idée et puis que voilà, ça s'est mis en place et que tous les jours il y a des nouveaux lots. On peut jouer jusqu'au 8 mai, c'est ça? Ça se termine le 8 mai.
À 18h. Ouais. Vaut mieux jouer jusqu'au 7, hein, comme ça on rate pas la deadline.
Voilà, donc c'est aujourd'hui, allez-y, 10 euros pour le maillot de Zidane, les lunettes de soleil encore de Gims. Il y a plein de choses, hein. La raquette de Richard Gasquet, il y a des journées de tournage, il y a des œuvres d'art, il y a des chefs comme Hélène Darroze qui ont proposé un repas, Jean-François Piège ou Christophe Michalak qui ont proposé leur tablier signé. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. Mais écoutez, merci beaucoup, bravo. Oui, vous vouliez dire autre chose?
Il y a même Gilles Lelouch qui vous offre un rôle dans son prochain film.
Ah oui, j'ai vu ça, effectivement. Mais allez voir sur le site, c'est marrant à voir, même si vous n'avez pas 10 euros à mettre. Mais je pense que 10 euros... Oui, il y a plein de choses très, très originales. Jean-Jacques Goldman qui a mis sa guitare, ça c'est incroyable.
Ça c'est inestimable, honnêtement. Enfin, tout est inestimable, mais alors là, pour le coup, on est tombé des nues.
Bon, et c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup et bravo à vous, Natacha Benabou, donc d'avoir été avec nous. Donc la tombola Star Solidaire, vous allez sur internet, vous tapez Star Solidaire, vous allez voir les 100 lots et puis tentez votre chance. Et puis comme ça, vous ferez également une bonne action. Tout de suite, alors vous savez que alors c'est sans transition. Peut-être que si il y a pas, je sais pas s'il y a, non, il y a pas de vélo, je crois, à gagner sur le site. Mais c'est vrai que les ventes de vélos électriques ont explosé. François Palmont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur technique à Que Choisir. Vous aviez à l'UFC Que Choisir réalisé un test en septembre dernier, sur les vélos électriques. Comment bien acheter son vélo électrique? Donc c'est un test qui va être extrêmement utile et un guide d'achat. Alors je vous renvoie, hein, auditeur de Sud Radio, sur le site quechoisir.org où tous les guides d'achat sont en accès libre. Alors les tests ne le sont pas. Vous ne saurez pas quel vélo acheter, là il faudra s'abonner. Alors dites-nous déjà un petit peu la première question à se poser quand on veut acheter un vélo électrique.
La première question, c'est, enfin, on trouve au niveau des prix, on trouve un peu de tout, hein, en vélo électrique. Évidemment, il y a les équipements sont pas les mêmes. Le vélo électrique, c'est un investissement, donc il faut bien comprendre ce qu'est le vélo électrique. Il y a plusieurs solutions, donc sans trop rentrer dans le détail, on peut dire qu'il y a les vélos avec les moteurs situés dans le pédalier et qui réagissent, en fait, qui donnent une assistance progressive. Et puis il y a les systèmes peut-être un peu plus basiques avec le moteur dans le moyeu arrière, qui coûtent moins cher, mais qui ont souvent une moins bonne autonomie. Donc il faut vraiment réfléchir à l'utilisation qu'on veut en faire. Donc la France est en train de devenir assez mature sur ce produit, mais ne l'était pas encore il y a quelques années. On voit que le prix moyen des VAE, des vélos assistance électrique, est en train de monter. Ça veut dire que les gens commencent à comprendre que c'est un investissement à long terme. Ils réfléchissent bien à ce qu'ils veulent en faire, à l'autonomie qu'ils veulent, et ils mettent un peu plus d'argent.
Oui. Le prix, c'est un critère de qualité ou pas?
Alors, un critère de qualité, pas nécessairement, mais c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'il y a des équipements, il y a des incontournables. On va parler du moteur, le moteur dans le pédalier. Oui. Il y a aussi l'autonomie de la batterie. Plus vous prenez une batterie avec une grosse autonomie, l'autonomie est généralement donnée en watt-heure, on trouve souvent du 400 watt-heure, mais on peut monter à 600 watt-heure. Si vous avez besoin d'une autonomie importante, vous allez augmenter cette autonomie de batterie. Évidemment, le prix, lui, va monter très vite aussi. La taille, le moteur, le fait que vous ayez un moteur situé dans le pédalier, par exemple, avec ce qu'on appelle des capteurs de force, il est capable de réagir en fonction de l'effort que vous fournissez. Ce moteur va être plus cher qu'un moteur qui va être situé dans le moyeu arrière et qui va donner, lui, un effort qui sera toujours le même, en fait. Dès que vous tournez les pédales, il donne le maximum d'effort sans aucune nuance. Ce système est moins cher, mais il est aussi beaucoup moins performant.
Beaucoup moins performant. Alors, on l'a vu, hein, les Français vont se tourner vraisemblablement vers les trottinettes, les vélos électriques. Est-ce que la filière aujourd'hui est suffisamment organisée? Est-ce que parce qu'on a vu fleurir à un moment beaucoup de magasins de vélos électriques, puis moi je les ai vus disparaître. D'abord son vélo, on l'achète pas par internet. Hein, c'est un des conseils que vous donnez.
Ben, c'est le vélo, il faut l'essayer. Et puis surtout le vélo électrique est un produit assez technique. Vous avez besoin de conseils. Alors même si nous, évidemment, on délivre des conseils, oui, on teste des produits, il est quand même essentiel de tester, d'essayer le vélo. Même les vélos que nous on conseille, il faut que vous l'essayiez pour savoir si le cadre vous convient, si la position vous convient. Donc c'est important d'essayer le vélo avant. Et c'est un produit technique dans lequel vous allez avoir un entretien. Et donc c'est bon d'avoir quelqu'un qui soit pas trop loin de chez vous, qui puisse reprendre le vélo, qui puisse travailler dessus, qui puisse faire qui puisse si nécessaire le réparer. Donc effectivement, les petits marchands de cycles en milieu urbain fonctionnent assez bien. Je sais pas si c'est le cas sur toute la France, mais évidemment là on va voir ce qui va se passer avec la situation actuelle. C'est certain que la situation est dure pour ces petits magasins. Je sais pas ce qu'il en sera en sortie de déconfinement. Maintenant c'est vrai que les gens veulent acheter. Nous on le voit. On a un retour avec les mails, des questions de nos lecteurs, de nos abonnés. On a beaucoup de questions sur le vélo électrique et on voit que les gens cherchent à s'équiper avec une vraie difficulté. Il faut peut-être le préciser, c'est que beaucoup des vélos qu'on propose et qui sont toujours vendus sont pour l'instant difficiles à acheter, tout simplement parce que les fabricants, l'approvisionnement ne se fait pas, quoi. Il faut savoir que beaucoup de fabricants français font de l'assemblage. Ils vont acheter des cadres souvent à Taïwan. Les produits comme le moteur et autres viennent aussi souvent de l'étranger. Et en ce moment, il est assez difficile d'approvisionner ces vélos. Donc il risque d'y avoir une pénurie sur certains modèles.
Oui, et l'autonomie, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai vu dans votre dossier que c'était important, effectivement, de faire attention à l'autonomie. Il y a des vélos qui ne font qu'une quarantaine de kilomètres, hein.
Oui, ça va dépendre. Alors, on parle de l'autonomie de la batterie, mais c'est juste un indicateur. Il faut savoir que les vélos avec le moteur, comme je le disais tout à l'heure, le moteur dans le pédalier, qui est un moteur qui réagit en fonction, qui va fournir un effort en fonction de ce que vous demandez, ces systèmes-là, en général, consomment moins d'énergie que les systèmes dits tout ou rien placés dans le moyeu arrière. Nous, on les teste. Évidemment avec l'assistance maximum. Souvent l'autonomie, si vous prenez un niveau d'assistance un peu intermédiaire, vous allez avoir un peu plus d'autonomie. Mais effectivement, il faut bien y réfléchir en amont. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'utilisation qu'on va faire. Parce que si vous prenez une batterie qui n'est pas adaptée au début et que vous dites « Ah ben non, j'ai pas assez d'autonomie, je vais changer de batterie », il faut savoir que les batteries sont souvent très très chères. C'est plusieurs centaines d'euros, ça peut être 400, c'est jusqu'à 700, 800 euros. Donc il faut bien y réfléchir en amont, il faut savoir vraiment l'utilisation qu'on va en faire. Mais de plus en plus, on a des batteries, en prenant une assistance maximum, on a quand même des vélos qui ont des autonomies tout à fait intéressantes, de l'ordre de, je dirais, qui varient de 50 à 80 km. Donc c'est quand même assez conséquent.
Est-ce qu'il y a un poids maximum pour un vélo?
Alors, il n'y a pas vraiment de poids maximum, c'est-à-dire que les fabricants, à partir du moment où il y avait une autonomie, alors c'est un avantage, c'est qu'on a des cadres qui sont très solides, hein, puisqu'il faut porter la batterie, il faut porter le moteur, mais très souvent le poids est élevé. C'est souvent des produits, on a beaucoup de vélos électriques qui font plus de 25 kilos. C'est-à-dire que le jour où vous avez...
Où il n'y a plus de batterie, c'est difficile après de pédaler et de porter le vélo, quoi.
Alors c'est faisable, mais c'est un vélo qui est quand même assez... c'est assez sérieux. Vous allez voir la différence entre le vélo avec et sans aide.
Il y a du poids du passager.
Bah, oui, enfin le poids du passager, là il y a pas de problème. Hein, les limites, ça c'est des limites légales en fait. Les tests, vélos doivent être testés. On peut porter, la personne peut faire. J'ai souvent des questions de gens qui sont assez lourds, qui peuvent se remettre à l'activité physique. Oui. Vous pouvez faire plus de 100 kilos et prendre un vélo électrique. Ça c'est.
D'accord, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut penser des vélos pliants, de ces vélos électriques pliants qui sont d'ailleurs assez chers?
Ils sont chers. Alors, je peux pas trop m'avancer tout simplement parce qu'on les a pas testés. C'est une niche. Non, on n'a pas testé les vélos électriques. Les vélos électriques pliants, pardon. Mais il y a un point particulier du vélo électrique pliant qu'on n'a pas, un problème qu'on n'a pas avec le vélo électrique classique, c'est la solidité. Là, vous avez, dans un système pliant, il faut déjà réfléchir. Effectivement, faut regarder son ergonomie, la facilité pour le plier, le déplier. Ça, c'est une chose importante. Voir s'il est vraiment facile à transporter. Et là, pour le coup, le poids est vraiment quelque chose à prendre en compte. Hein. Il faut vraiment regarder un magasin. Et puis, il faut tester. On pensait, c'est peut-être quelque chose qu'on testera dans le futur, mais il y a, en discutant avec le laboratoire avec lequel on teste ce produit, là, il faut commencer à vraiment faire attention à la solidité, notamment au niveau des charnières, au niveau des endroits où ça se plie et déplie. Mais il y a un réel intérêt, notamment en milieu urbain.
Bah oui, en milieu urbain, il y a aussi la question, parce qu'il y a des VTT également, il y a des vélos de course, il y a toute une gamme de prix, de différentes gammes de vélos électriques. Donc il faut aussi bien réfléchir à l'usage qu'on veut en faire.
Oui, alors là, le vélo électrique a commencé, le vélo assistance électrique a commencé vraiment à se développer. Il y a eu deux axes. Hein. Il y a eu l'axe d'utilisation quotidienne des gens, d'abord en milieu urbain. Maintenant, c'est en train de se développer un peu partout. Et ensuite, il y a eu le vélo plaisir, donc le VTT. Et ça a commencé à se développer avec les locations en montagne. Beaucoup de gens louaient des VTT en montagne avec vélo électrique, avec une assistance électrique. Une batterie, on comprend très bien, hein, pour remonter en VTT. Le moteur, ça a vraiment dynamisé l'activité. Mais on commence à en voir, non plus en location, mais un peu partout. Beaucoup de gens commencent à acheter effectivement des VTT avec une assistance électrique. C'est en train de se développer aussi très fortement, effectivement.
Très fortement. Donc beaucoup, les prix, ça va de 800 euros grosso modo à plusieurs milliers d'euros, c'est ça ? 3000, ça va jusqu'à 4000 euros parfois. Hein.
Oui. Mais avec un prix moyen qui est en train de monter. On avait l'observatoire du cycle qui a sorti ses chiffres en début de semaine et le prix moyen en train de monter régulièrement. Le prix moyen d'un VAE en France se situerait aux alentours de 1750 euros.
D'accord. En dessous de ça, c'est compliqué ou pas forcément?
Non, ça dépend. Non, on a des très bons. Nous, on a testé des très bons produits. Ils sont très bons en fonction d'une utilisation. Hein. On a testé des très bons produits à 1100 euros. On a des choses tout à fait correctes en termes de qualité et de performance. Par contre, souvent, l'autonomie est effectivement moins importante. Vous avez un moteur dans le moyeu arrière, mais c'est solide, c'est bien fait. Ça fonctionne très bien. C'est à vous de bien vous renseigner sur ce qu'on peut attendre d'un vélo. En fait, c'est des vélos qui correspondent à des attentes différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils soient mauvais. Vous pouvez, alors, si vous descendez trop en prix, si vous avez des vélos qui sont mal finis, vous avez, là, quand on a quelques centaines d'euros sur un vélo électrique, il ne faut pas espérer avoir quelque chose de sérieux. Mais à 1000 euros, vous pouvez avoir un très bon vélo électrique. Par contre, il ne faudra pas demander une autonomie incroyable. Il faudra pas, ça ne sera pas un moteur dans le pédalier. Ça ne sera pas une batterie intégrée au cadre. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, merci. Merci beaucoup, François Palmont. C'était beaucoup d'informations intéressantes. Donc, je renvoie les auditeurs de Sud Radio sur le site quechoisir.org où tous les guides d'achat sont en accès libre. Après, vous avez fait le test qui, lui, est payant. Mais c'est extrêmement complet. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler de toute autre chose, la vie sexuelle et affective des Français pendant le confinement. Merci, François Palmont.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble avec vous. Alors un sujet tout à fait différent. François Crosse, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous travaillez donc à l'IFOP. Vous avez réalisé un sondage pour le site charles.co et le sondage porte sur la vie sexuelle et la vie affective des Français pendant le confinement. Dites-nous ce que vous avez appris en faisant ce sondage.
Bah, on a résumé par trois mots clés, hein, frustration, transgression et implosion. La frustration, oui. Parce qu'on a une, comme de même qu'on a une rétractation de l'activité économique, on a aussi une rétractation de l'activité sexuelle, y compris chez les personnes en couple, sans doute liées au stress général, à l'anxiété qui, on le sait, impacte toujours sur la libido. Transgression ensuite, parce qu'on a quand même une proportion non négligeable de célibataires qui ont transgressé le confinement. Transgression, vous avez une personne sur trois qui a transgressé le confinement pour des motifs familiaux, amicaux ou sentimentaux, mais on a environ un quart des personnes qui étaient en couple mais qui n'étaient pas confinées avec leur partenaire qui ont quand même transgressé le confinement pour aller voir leur bien-aimé. Mais on a aussi une transgression chez les personnes en couple du principe d'exclusivité sexuelle dans le couple, c'est-à-dire qui fait que logiquement vous ne devez pas aller voir ailleurs, et on a aussi une proportion non négligeable de personnes en couple, 5 à 10% selon les questions, qui sont par exemple, qui ont eu des échanges un peu ambigus avec d'autres personnes que leur partenaire.
Sur Internet.
Par exemple, sur Internet ou par SMS, etc., avec différents personnes connues ou inconnues. Et justement, ce qu'on montre, c'est que il y a quand même un risque, un impact non négligeable de cette période de promiscuité et de présence constante de l'autre obligatoire sur le bien-être affectif et les relations de couple, vu que on a quand même environ 10% des personnes en couple qui déclarent qu'ils souhaiteraient prendre des distances, soit provisoires, soit définitives, avec leur partenaire à l'issue du confinement. Et ça c'est naturellement référence à l'explosion des divorces qu'on avait observé en Chine après la levée du confinement. Alors attention, ça a relativisé parce que la plupart disent que c'est plutôt pour une prise de distance provisoire, mais on a quand même 4% des personnes en couple qui souhaiteraient prendre éventuellement aller jusqu'à une rupture avec leur conjoint suite à cette période de confinement qui a pu être difficile. Quand on sait qu'elle change les habitudes des couples qui sont en général qui se voient quand même qui sont loin de se voir 24 heures sur 24. Voilà.
Absolument. Les gens répondent facilement aux questions que vous leur posez, parce que vous avez posé des questions sur les pratiques de différentes activités masturbatoires durant le confinement. Ils vous répondent facilement à ces questions?
Alors ça dépend comment on les interroge. Si on les interroge par téléphone ou en face à face, on a des taux de déclaration beaucoup plus faibles, puisque on est sur des pratiques qui sont difficilement admissibles par la morale dominante, même si tout le monde sait que, en fait, elles sont très généralisées. Mais non, on a fait une enquête par questionnaire auto-administré en ligne et il n'y a pas la présence d'un enquêteur qui viendrait biaiser les réponses, par exemple.
Voilà. Donc surfer pour voir des films porno, visionner des films porno en DVD, utiliser des sextoys, lire des livres érotiques, etc. Vous avez posé toutes ces questions.
Oui, mais l'idée, c'était, vous savez, il y a eu beaucoup de communication des acteurs du site des rencontres, du monde pour adultes, qui ont déclaré qu'il y avait une explosion des ventes de sextoys, de sites pornographiques, etc. En réalité, tout ça, c'est à relativiser. D'abord parce que, en fait, c'est surtout concentré chez les célibataires et les célibataires masculins, qui sont généralement des plus gros adeptes de la pornographie. Mais il faut comprendre aussi que les pratiques de ce type sont généralement, en fait, sont aussi assez répandues chez les hommes en couple. Or, en fait, un des enseignements de l'enquête, c'est que les conditions du confinement ont fait diminuer les pratiques et les activités à caractère masturbatoire des hommes en couple, puisqu'ils n'avaient pas de moment pour le faire, seul, comme ils peuvent le faire, voilà. Et les hommes en couple, mais aussi les femmes. Et donc, les hommes sont un peu plus adeptes de ce genre de pratiques. Donc, finalement, la consommation de ce type de produit ne semble pas avoir explosé tant que ça, quoi. Voilà.
Ouais. Donc c'est plutôt vous avez été surpris par certains de ces résultats?
Moi, alors, ce qui m'a surpris, c'est il y a aussi un autre chiffre clé de l'enquête que j'appellerais la digitalisation de la sexualité affective et sexuelle des Français. C'est-à-dire que de la vie sexuelle et affective des Français, c'est-à-dire que on a une explosion quand même de l'usage des outils numériques de type webcam, vidéo, photo, et texto, puisqu'en fait, la séparation des corps a favorisé une augmentation
des échanges virtuels à caractère sexuel. Et par exemple, ouais, chez les jeunes, on a fait une enquête au moment de l'affaire Griveaux, c'est-à-dire c'est il y a pas si longtemps, c'est il y a 2 mois, et on a une progression de 12 points chez les personnes qui ont échangé avec leurs partenaires des messages par SMS. On a les jeux sexuels par webcam qui ont progressé de 5 points, les fameux nudes qui sont très répandus chez les jeunes qui ont progressé de 8 points, les dick pics de 12 points. Et ça, c'est des choses, en général, je vous dis franchement, ça évolue, mais pas aussi rapidement, pas en 2 mois. Et on a reposé exactement les mêmes questions, et c'est assez impressionnant de voir que, oui, en fait, c'est un moment, de même que ça va favoriser une plus grande numérisation et digitalisation de la consommation, éventuellement même de l'éducation ou d'autres types de pratiques culturelles. In fine, la période va accentuer la tendance à la digitalisation de la sexualité des Français. Voilà.
Absolument. Bah, écoutez, c'était passionnant, François Cros. Si on veut retrouver cette étude, cette enquête, c'est à retrouver sur Charles, C-H-A-R-L-E-S, comme le prénom, .co. Merci à vous. Et puis, on aura peut-être l'occasion de vous reparler à propos des 2,5 kg qu'ont pris les Français le confinement.
Quand vous voulez, rappelez-moi demain si vous voulez.
Eh ben, on vous rappelle pour ça. Merci beaucoup. Merci François Cros. On se retrouve, nous, dans quelques instants. On va revenir sur le 11 mai. Serons-nous prêts? Jean Castex, qui est auditionné en ce moment même, a parlé d'un reconfinement possible si les chiffres n'étaient pas bons. À tout de suite avec vous sur Sud Radio.